Extra classe.
Comment aborder à l'école les sujets délicats ou les événements dramatiques dont l'actualité est parfois saturée, la crise ukrainienne en ce moment évidemment, la crise sanitaire dont on n'est pas encore totalement sorti, et bien d'autres qui peuvent surgir régulièrement. Les enfants reçoivent plus ou moins les échos. On va se demander comment accueillir leurs émotions face à ces événements, pourquoi est-ce important que l'école puisse le faire. En même temps, comment ne pas générer plus d'anxiété encore, notamment chez les plus jeunes, pour faire véritablement quelque chose de ces émotions?
Oui, ces questions, elles ont ressurgi avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a été très largement médiatisé. Mais ça nous rappelle aussi que écouter les élèves, leur donner un espace d'expression de leurs émotions, instaurer un climat de confiance, tout ça, c'est un travail de fond qui se construit au quotidien dans les classes.
Et pour répondre à ces interrogations, et surtout à toutes celles de nos auditrices et de nos auditeurs, nous accueillons aujourd'hui Nadège Le Tessier, Marie-Noëlle Clément et Delphine Solière.
Nadège Le Tessier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes régulatrice scolaire, ancienne enseignante en SECPA, et notamment autrice d'un parcours magistère sur les émotions.
C'est bien ça.
Marie-Noëlle Clément, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes pédopsychiatre, cofondatrice de l'association 36912 avec Serge Tisseron, et notamment autrice d'un livre intitulé « Comment te dire ?».
C'est ça.
Et Delphine Solière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef et directrice des magazines pour les moins de 12 ans chez Bayard.
Exactement.
Alors, pour entrer dans l'émission, je vous propose qu'on commence par donner la parole aux enfants, ou plutôt la lettre aux enfants, avec les mots d'une jeune lectrice que vous avez eu la gentillesse de nous apporter, Delphine Solière. Donc, je lis, c'est Stella qui écrit à Astrapi, qui dit « Salut Astrapi ». Je m'appelle Stella. En ce moment, tout le monde parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mes parents, à la télé, au collège, ça me fait peur. Je ne veux pas mourir et les gens disent qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale. J'aime pas la guerre, j'ai peur, j'y pense tout le temps. S'il te plaît, aide-moi. » Alors, Stella, elle donne pas son âge dans sa lettre, mais on imagine assez bien une enfant de cycle 2. Et tout est dans ces mots, hein, la place des médias, le rôle dans l'école, de la famille, les angoisses et la peur. Pour commencer, peut-être Marie-Noëlle Clément, à comprendre en quoi l'accueil des émotions est primordial, vous pourriez nous en dire quelques mots en tant que pédopsychiatre, nous expliciter quels sont les effets de ces images et de l'actualité sur les plus jeunes de 3 à 12 ans.
Bah, écoutez, c'est vrai que devant des événements aussi importants que ceux qui sont en train de se dérouler en ce moment, il y a un afflux d'informations dans les familles. Tout le monde s'inquiète, tout le monde a envie de s'informer. On ouvre la télévision, on allume la télévision, on ouvre les journaux, etc. Donc les plus jeunes sont évidemment pris dans ce flot, dans ce flux. Et puis il y a aussi les cours de récréation où s'échangent beaucoup de choses. Et puis des informations dans les cours de récréation qui sont parfois un peu dérégulées, hein, c'est-à-dire les enfants rapportent ce qu'ils ont entendu chez eux, ce qu'ils ont plus ou moins bien compris, ils essayent d'être le plus spectaculaire possible pour certains, donc tout ça génère beaucoup d'inquiétudes et il faut bien sûr des paroles d'adultes pour venir un petit peu structurer, apaiser, rassurer. C'est là où la famille, les parents, mais aussi l'école et les enseignants ont leur rôle à jouer, bien sûr.
Et Delphine Solière, c'est vous qui nous avez apporté ces mots d'enfants qui ont été envoyés à Astrapi, là, qui est comme un petit personnage un peu rassurant auquel on peut s'adresser. Vous avez aussi un rôle, finalement, en tant qu'éditeur jeunesse.
Oui, on a tendance entre nous à nous rappeler qu'on a une mission. On est aussi un tiers-lieu éducatif. Il y a l'école, il y a la famille. Et puis, il y a aussi un magazine avec qui on a une relation de confiance, dont on est un peu le grand frère ou la grande sœur ou le grand copain à qui on peut se confier. Donc on a une grande responsabilité et on reçoit énormément de courriers. Et la preuve, c'est quelques mots que je vous ai apportés.
Justement, pour rester sur cet élément avec vous, Delphine, peut-être, il me semble que pour vos publications autour de la guerre en Ukraine, vous avez recueilli dans la cour, vous êtes allé un petit peu écouter les mots d'enfants, c'est bien ça? Est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce process particulièrement intéressant pour le coup?
Alors c'est vrai que pour nous, l'école est un lieu de rencontre avec les enfants qui est important. Déjà, quand on va dans une classe ou une école, on rencontre beaucoup d'enfants. On a un lieu d'observation très intéressant sur les relations entre eux, sur les jeux de cours de récré, sur les mots qu'ils utilisent. Vous voyez, ça nous donne vraiment un curseur et très vite, on a eu cette nécessité d'aller écouter ce qui allait se dire ou ne pas se dire, d'ailleurs, dans des cours de récré, école maternelle, primaire, et mes collègues de CAPI aussi sont allés en collège, rencontrer des jeunes et les écouter et échanger avec eux cette question-là. Et donc, on a vu très vite que les mots arrivaient. En fait, on a vu très vite la question de l'Ukraine, la question de la guerre, exactement ce que vous disiez, Marie-Noël, des choses qui nous ont paru tout de suite assez, assez étonnantes, des angoisses qui surgissaient, et des jeux aussi, alors maternelle surtout. On a vu des enfants jouer au grand méchant Poutine. Ça nous a surpris, mais je pense qu'il y a une forme de grand méchant loup, enfin, qui tout de suite qui était l'ennemi à battre. Ça ne savait absolument pas qu'il avait un prénom, qui c'était. C'était Poutine. C'était assez amusant.
Et Nadège, alors, donc, il se passe plein de choses dans la cour d'école, apparemment, et dans les classes. Comment ça se passe? Et peut-être, dites-nous, juste régulatrice scolaire, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est.
Alors, j'interviens auprès d'équipes pour les accompagner dans la gestion, en fait. De leur classe, quand il y a des enfants qui ont des problèmes de comportement, quand il y a des conflits, ça peut être entre enfants, enseignants, mais aussi direction enseignant. Enfin, bon, j'interviens pour finalement réguler, enfin amener l'harmonie un peu plus dans les classes et permettre à chacun de travailler au mieux.
D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pu un peu entendre, constater? Qu'est-ce que les collègues vous ont dit?
Alors, en fait, au départ, effectivement, il y a eu beaucoup de, comment dirais-je, de choses qui ont été dites, extrapolées, c'était vraiment grandiloquent, enfin, etc. Et puis aujourd'hui, je constate qu'il y a vraiment un retour à la normale. Les enfants ont besoin, aujourd'hui, le cadre classe les rassure, c'est-à-dire qu'ils sont au travail. Et dans le même temps, je pense que ça va être le sujet, on en parlera tout à l'heure, sur l'importance, finalement, d'accueillir les émotions des enfants qui en ont besoin, pour leur permettre de se mettre au travail, parce qu'on sait très bien à quel point les émotions sont liées à la cognition et interfèrent sans cesse. Et on peut avoir des enfants qui sont en empêchement de penser, ou certains encore qui peuvent être, surtout les enfants qui ont une grande sensibilité, qui peuvent avoir des comportements particuliers, en tout cas étonnants, mais qui sont dus, je pense, à des angoisses ou à des peurs, mais pas forcément identifiés tout de suite comme cela.
Marie-Noël Clément, là, on parle effectivement de la crise ukrainienne qui est le moment actuel, mais ça peut concerner bien d'autres moments, d'autres événements aussi qui peuvent toucher les enfants à différents niveaux.
Oui, bien sûr. Et depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a eu quand même une succession d'événements difficiles. Hein. La question de, enfin, la période des attentats, la pandémie, évidemment, et puis tout ça sur fond d'urgence climatique. Donc c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont quand même soumis à un climat tout à fait particulier au niveau de l'actualité. C'est beaucoup d'inquiétudes. Et en même temps, cette inquiétude, on peut aussi en faire quelque chose. C'est ça qui est peut-être, on va sûrement voir ça aujourd'hui.
Ce qu'on pourrait se demander aussi, en tout cas de la part des enseignants, c'est quelle part faire entre l'apport d'informations pour éclairer une crise telle que celle qu'on est en train de vivre en ce moment autour de l'Ukraine et l'accueil des émotions. Selon les enseignants, on peut se dire que j'apporte des informations factuelles et ça va déjà rassurer les élèves parce qu'ils ont quelque chose à quoi s'accrocher, mais où mettre le curseur entre apport d'informations et recueil, gestion des émotions? Peut-être Marie-Noël encore pour le coup.
Oui, je crois que le premier temps, c'est vraiment l'accueil des émotions. On ne peut pas commencer à penser si on ne s'est pas un petit peu débarrassé, en quelque sorte, de ce qu'on a sur le cœur, des émotions qui nous habitent. L'accueil des émotions, ça suppose aussi que les adultes soient en mesure de nommer les leurs. C'est-à-dire que si on ne nomme pas les émotions qui nous habitent, nous, inviter les enfants à le faire, c'est... Il y a des chances qu'on fasse chou blanc parce que du coup, on ne montre pas le chemin. Tout d'abord, que l'adulte puisse exprimer ses propres émotions, dire moi, devant ce qui se passe en ce moment, voilà ce que je ressens. Et vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire? Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de parler? Donc, tout d'abord, faire place à l'expression des émotions, au fait de les nommer, ça structure un petit peu les choses. Et ensuite, effectivement, on peut en venir sur des choses plus explicatives, informatives, qui vont venir border, pour le coup, l'émotion et la mettre un peu à distance.
Et Nadège, il y a des outils un peu concrets que vous pourriez partager pour ce temps de recueil des émotions, parce que tout le monde ne sait pas forcément bien le faire, n'a pas l'habitude de le faire.
Oui, alors la première des choses, effectivement, comme le disait Marie-Noël, c'est en tant qu'adulte, on est vraiment un modèle. Donc, si on veut accueillir les émotions des enfants, c'est vraiment important de poser les siennes. Et on peut avoir des temps, en fait. Et puis, tous les enfants ne vont pas avoir les mêmes besoins. Donc, ça aussi, je pense que même dans le recueil, au niveau de l'information, on peut aussi essayer d'imaginer travailler en équipe pour avoir peut-être un enseignant qui va être plus sur rassurer les enfants en leur donnant des choses factuelles, d'autres qui vont peut-être être plus sur l'accueil des émotions pour des enfants plus fragiles. Et là, on peut faire des groupes de parole avec un bâton de parole. On peut amener aussi à faire des petits jeux de théâtre, parce que les émotions peuvent s'exprimer aussi par le théâtre, par le corps, passer par le corps, parce que tous les enfants ne savent pas nommer leurs émotions. Donc c'est déjà où ça se situe dans mon corps, et puis l'adulte va aider à nommer. Et puis, de la même façon qu'accueillir, savoir en tant qu'enseignant qu'une émotion, finalement, elle cache un besoin. Et ce besoin de l'enfant, après, on en parlera peut-être sur des outils pour accompagner, en tout cas. Mais on voit là certains. Mais ça peut être aussi écrire des chansons, du rap. Accueillir une émotion, elle peut se faire de différentes façons.
J'allais proposer qu'on aille justement sur ce terrain du faire quelque chose avec ses émotions. Hélène, je crois qu'on a un autre mot d'enfant à partager.
Oui, alors c'est un enfant qui a pris un peu le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, qui donc a écrit à Astrapi, lui aussi. Mais pas que à Astrapi, lui, ce qu'il veut, c'est écrire au président. Et il nous dit, donc c'est Joseph, il a 7 ans et demi, et il nous dit, avec ma copine Salomé, qui lit aussi Astrapi, on a fait un sondage, tout le monde dans notre classe de CE1 veut la paix. Et nota bene, est-ce que vous pourrez mettre ce mot et ma photo dans le prochain numéro? Merci beaucoup, ce que je trouve très mignon. Il ne perd pas le nord quand même, Joseph. Mais ce qui est sympa, c'est que ça veut dire que dans sa classe, il a, alors je ne sais pas si c'est son initiative, on a l'impression que oui, il s'est dit, bon, on va en parler collectivement, on va faire un sondage, et puis on va essayer de transformer nos idées en une action. Alors, c'est chouette ça, Nadège?
Ah oui, ça c'est, je trouve... Finalement, les émotions, elles amènent une action. Enfin, chaque chose et se sentir qu'on peut agir sur quelque chose, ça rassure. Et quelque part, oui, on peut organiser plein de choses. Et c'est extraordinaire que ça soit un petit garçon qui soit l'initiative. Et je pense qu'on peut-être en tant qu'enseignant, là, ça me donne des idées à se dire, mais oui, si peut-être on a interrogé pour les grandes classes, aller vers un engagement, voilà, s'engager pour quelque chose, aller voir des artistes engagés. Aller voir, voilà. Et puis pour des plus petits, peut-être se dire, bon, comment on pourrait faire pour que dans la classe, par exemple, les enfants qui ont peur ou qui sont tristes, qu'est-ce qu'on peut organiser? Je sais que j'ai vu des exemples où il y a des bancs qui sont mis dans des écoles colorées quand on veut parler, quand on se sent seul. Et oui, agir, c'est vraiment important pour les enfants.
Alors, je vais juste faire un petit contrepoint qui vient d'une question qui nous est posée. D'une personne qui vraisemblablement est un petit peu agacée par l'entrée, par les émotions, qui trouve que c'est un peu trop. Elle dit « Ne pourrait-on pas plutôt écouter leurs réflexions, répondre à leurs interrogations, recueillir leurs craintes, plutôt que d'utiliser ce jargon de accueillir les émotions ?» Mettre ces questions sur le terrain exclusif de la gestion des émotions me paraît très réducteur. Et donc c'est quelqu'un qui vit aux États-Unis apparemment et qui voit un petit peu les écueils d'une approche qu'elle ressent de cette façon. Elle dit, pas sûr que l'on progresse beaucoup en s'y intéressant, surtout sur un tel sujet. Alors c'est bien, ça nous met un petit peu de poil à gratter dans cette conversation, Marie-Noël Clément.
Alors, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que donner de l'information, donner des explications, si on n'a pas d'abord un petit peu dégagé le terrain de l'émotion, ça prend pas, quoi. C'est-à-dire que l'enfant est pas prêt à recevoir ça. Il arrive à l'école, il a appris qu'il y a une guerre en Ukraine, ou il a appris qu'il y a eu des attentats la veille. Il est bouleversé, comme nous le sommes tous. Et ça, il faut que ça trouve à s'exprimer quelque part. Alors, il y a plein d'endroits. L'école n'est évidemment pas le seul endroit, mais ça en fait partie quand même. Il ne s'agit pas non plus de transformer l'école en thérapie de groupe, etc. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais en tout cas, qu'il y ait cette place qui soit faite avant qu'on aborde le champ de la réflexion. C'est valable aussi, vous citiez tout à l'heure le fait que je suis membre fondateur de l'association 36912 Apprivoiser les écrans et grandir. C'est une association où on s'occupe des effets des images sur les enfants, des effets des écrans. Devant les spectacles d'images qui sont un peu malmenants, que peuvent voir les enfants à l'occasion, et même de façon assez courante, la première chose, c'est pas qu'est-ce que tu as compris, c'est qu'est-ce que ça te fait. Et ensuite, on peut parler de, effectivement, quel est le contenu, qu'est-ce qu'on a compris, comment on peut mettre en sens, etc. Mais ça, ça prend pas si on est trop bouleversé, si on est sur le qui-vive. Voilà.
Nadège, vous souhaitez réagir?
Oui, je souhaitais réagir pour apporter un complément et se dire à ce collègue ou cette personne que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et ça veut pas dire que... Enfin, accueillir les émotions, ça va pas durer toute une matinée, ça va pas durer toute une journée. C'est quelque part, on rentre en classe, ça dure quelques secondes, mais bien sûr qu'on va aller dans l'explication, bien sûr qu'on va aller nuancer les propos qu'on entend, qu'on va aller voir plus loin. C'est pas... Donc je pense qu'on... On ne doit pas être dans cette dualité, opposer l'un et l'autre. Et je pense que c'est amené, donc c'est pertinent. En tout cas, cette remarque en tout cas, amène cette réflexion-là. Et de se dire, attention, on parle des émotions, mais bien sûr qu'il y a tout le reste. Voilà, donc je souhaitais juste réagir.
Alors, on a quelqu'un en live qui nous pose la question sous la bannière Festival Actu, qui nous dit bonjour, qui nous remercie pour ce live, et qui dit surtout, en Moselle-Est, un événement existe qui donne la parole aux jeunes, qui nous livrent souvent leurs émotions sur l'actualité à travers un film. Alors, une remarque qui nous permet de voir que comment on peut faire quelque chose avec les élèves de leurs émotions, comment ils peuvent en faire quelque chose. Et ce qui me permet de rebondir autour de vos publications, Delphine Solière, sur... comment elles sont travaillées, comment elles sont mises en place avec les enseignants, comment elles sont utilisées dans les écoles. Vous avez des éléments à ce sujet?
Finalement, on est comme tout un chacun. On est d'abord effectivement submergé par ce qui se passe. En plus, nous, en tant que journalistes, on a un regard particulier sur ce qui se passe dans le monde et sur l'information. Donc, on a eu besoin assez vite de se dire il faut que nous aidions les enfants, les enseignants, les parents, les familles, à mettre un peu de raison, une fois que le choc passé, comprendre ce qui se passe, d'abord parce que comprendre, ça permet de prendre de la distance, ça permet donc certainement de faire baisser une part du niveau d'anxiété, ça permet aussi de donner un petit sentiment de maîtrise aussi sur la vie, et puis ça permet de comprendre pourquoi ça se passe à ce moment-là. Donc effectivement, on a choisi, nous, de réagir assez vite, parce qu'on ne pouvait pas le faire dans nos publications, en proposant sur Internet, à destination de tout le monde, différents outils de compréhension. Et je peux vous dire que ce n'était pas évident parce qu'on n'est pas des spécialistes des géopolitiques, mais néanmoins, il fallait qu'on soit absolument impeccable, surtout quand on fait une carte pour des enfants, quand on veut montrer, comme on l'a fait avec ImageDoc, des cartes successives pour montrer ce qui s'est passé en Ukraine depuis le début des années 90. Et là, on a travaillé pendant quasiment 24 heures pour être sûr de trouver les mots justes, parce que le mot juste, c'est ce qui permet de perdre le moins de temps possible et qui permet ensuite à ceux qui utilisent les outils, et si ce sont des enseignants, d'avoir un dialogue autour de la réflexion de ce qui se passe.
Nadège, les enseignants, ils ont besoin de support, ils ont besoin d'outils. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour aller plus loin une fois que les émotions sont posées? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Moi, je pense qu'un enseignant est toujours en recherche d'outils. Il passe énormément de temps à chercher et même à ne pas réutiliser des choses qu'il fait d'une année sur l'autre, non, parce que voilà, c'est un chercheur. Et un enfant, quand il a des difficultés à travailler, on le voit pas bien, on peut lui proposer de dessiner, de prendre des petits smileys qui existent avec toutes ses émotions mises en mots. Et de les mettre, d'aller le coller au fond de la classe, d'avoir un espace spécifique, et ça lui permet de revenir. Il y a des petits outils comme ça, et aborder la guerre aussi dans la réflexion. J'ai vu des outils qui sont très très intéressants à aborder par l'art, parce que ça amène quelque chose. Donc il y a Banksy, et il y en a d'autres, il y a Sani, je crois, c'est une afghane. Et on peut aussi aborder les conflits autrement. Mais je sais que j'ai vu beaucoup de choses d'ailleurs chez Bayer, mais pas que. Il y a aussi l'Académie de Versailles qui propose énormément d'outils. Donc, il faut taper dessus « conflit en Ukraine » et vous allez avoir autant sur les émotions que sur le didactique le plus spécifique. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, là, ça fleurit et c'est... Je pense que c'est une vraie source pour...
Alors, ces références, on les mettra dans les liens de l'émission quand elle sera en ligne. Marie-Noëlle Clément, vous avez aussi un outil, vous qui sont... Enfin, je ne sais pas si on peut dire un outil, que sont les petits labos d'empathie?
Oui, alors, l'association 36912 fait partie des petits laboratoires d'empathie qui ont été fondés par Serge Tisseron. Et dans ces petits laboratoires d'empathie, nous faisons des formations pour les enseignants au jeu des trois figures. Le jeu des trois figures, c'est un dispositif qui est très intéressant pour le sujet qu'on traite aujourd'hui, par exemple. C'est un dispositif auquel les enseignants se forment, puis ils le pratiquent chaque semaine avec leurs élèves, pendant toute l'année scolaire. On part de ce que les élèves ont vu sur les écrans. Cette semaine, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça. Bon, déjà, c'est un premier point qui est intéressant, de recueillir un petit peu ce qu'ils ont retenu. Et à partir de là, on choisit une scène qu'ils ont vue sur les écrans. Ils votent pour savoir laquelle ils choisissent. Et ensuite, on va décontextualiser cette scène et on va leur proposer de construire leur propre scénario à partir du squelette, du sujet, de la thématique. Et ensuite, ils vont pouvoir jouer cette scène en la jouant successivement plusieurs fois et en jouant successivement tous les personnages. C'est-à-dire, c'est l'idée d'apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est un dispositif qui est intéressant parce qu'il travaille à la fois sur les émotions et puis sur... Alors, Nadège le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'activité théâtrale, le fait de mettre en scène, c'est extrêmement important pour les enfants dans le champ des émotions parce que l'émotion, elle passe beaucoup par le corps chez les enfants. Donc, pouvoir effectivement bouger, incarner, etc., c'est vraiment un support intéressant. Et puis, la construction du petit scénario les amène aussi dans quelque chose qui leur permet de prendre de la distance par rapport aux images qu'ils ont vues, de se réapproprier les choses et d'amener le scénario, s'ils ont envie, vers quelque chose de complètement différent. Ils peuvent partir d'une scène qu'ils ont vue au journal télévisé sur la guerre en Ukraine et construire leur propre scénario et le faire évoluer d'une façon qui leur convient. Ce qui permet aussi de redonner de l'espoir.
Question pratique, simplement. Ça, ce sont des outils qui sont à disposition des enseignants ou c'est via la médiation d'intervenants qui viennent dans les classes, par exemple ?
Non, c'est les enseignants qui le pratiquent, mais il faut d'abord qu'ils se forment. Voilà, ça nécessite d'être formé.
On entre effectivement dans la troisième partie de l'émission et on va passer par les mots de Méline, qui a 9 ans et qui nous dit « Ma famille va peut-être héberger une maman et ses enfants ukrainiens. J'aimerais bien, s'il te plaît, que tu fasses un strapi pour avoir des conseils et pour apprendre un peu la langue. Merci beaucoup. » Et elle nous dit qu'elle est en CM1. Donc, à travers ces mots de Méline, c'est vrai qu'on va se demander un petit peu plus précisément comment tenir compte de l'environnement familial, d'une manière générale de la coéducation. Delphine Solière, est-ce que ce sont des éléments qui peuvent faire l'objet de publications particulières chez Bayard ?
Alors, on est vraiment sur ces questions-là aujourd'hui. D'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, se mettre dans l'action, ça sécurise et ça donne un but. Ça donne aussi effectivement de l'espoir. Ça nous donne un rôle positif. Donc, c'est vrai que nous, on réfléchit, pour tout vous dire, on aimerait bien arriver à faire un astrapi en ukrainien. Ça, ce serait vraiment notre objectif.
Ah oui.
Pour l'instant, je ne sais pas si on y arrivera de cette manière-là. On a parlé avec différentes associations humanitaires pour produire des contenus. On sait aussi qu'il y a des choses qu'on avait faites qui sont devenues des livres et qui ont été traduits en ukrainien. Donc ça aussi, on est en train d'essayer de trouver le droit d'autorisation parce qu'on ne peut pas publier des choses qui ont été faites par quelqu'un d'autre et en particulier une maison d'édition qui est à Mariupol. Donc évidemment, on n'a plus aucun contact avec eux. Néanmoins, on a aussi sollicité des gens qui seraient capables de traduire des contenus. Et c'est vraiment intéressant parce que dès qu'on dit ça aux enfants, et mes collègues d'Astrapi et d'ImageDoc sont allés en début de semaine dans des classes pour discuter de ça, ce serait quoi finalement le langage pour accueillir quelqu'un ? Ce serait quoi le lexique de mots de minimum à avoir ? Donc il y a eu beaucoup de choses autour de l'accueil, bonjour, comment tu t'appelles, mais beaucoup de choses aussi en disant les mathématiques, c'est difficile. Alors les mathématiques, il faudra arriver à traduire, savoir comment ils apprennent les mathématiques. Mmh. Ça c'est ImageDoc, ils m'ont dit, on leur a dit, oui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire au tableau, on peut aussi mimer, il y a aussi tout le langage corporel qui est important. Donc nous, on réfléchit à ça, on essaiera de se mettre au service aussi des enseignants, et on est à l'écoute des besoins en fait. Là, on est dans cette période de recueil des besoins et des possibilités qu'on peut avoir.
Nadège, il y a des classes là qui s'apprêtent ou même qui ont déjà accueilli des enfants réfugiés.
Alors oui, elles s'apprêtent à accueillir. Il y a des écoles, les mairies qui appellent les écoles pour Donc de la même façon, il y a un vrai travail d'accompagnement pour la classe, travailler sur l'accueil de ces enfants qui vont arriver. Et ça, c'est tout nouveau. Donc c'est de l'adaptation. En ce moment, c'est qu'on est quand même dans des périodes de vraiment hyper adaptabilité, on va dire, pour les enseignants aussi. Et à réfléchir, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même autour pour les enfants non francophones. Donc des images, des choses qui existent avec des maîtres qui sont spécialisés pour accueillir ces enfants-là.
Et plus généralement, parfois, Marie-Noëlle, les situations, les élèves ne les ont pas forcément vécues eux-mêmes, mais ils ont vécu des choses proches ou leurs familles ont vécu des choses proches. Comment, c'est peut-être un peu délicat avec ces enfants-là, ça peut raviver des choses. Comment est-ce que vous imaginez que les enseignants pourraient essayer de tenir compte de ces réalités-là ?
Effectivement, l'actualité, elle peut résonner pour certains enfants, voilà, avec des problématiques personnelles, familiales. On ne sait jamais, en fait, hein, sur quoi on tombe, si je puis dire. On a vu les choses de plus près, par exemple, au moment des attentats terroristes. Moi, j'habite et je consulte dans le 11e arrondissement de Paris. Et du coup, là, les choses, effectivement, étaient très, très proches. Il y avait des familles qui avaient été touchées, avec voilà, des personnes blessées ou tuées dans les attentats. Donc, les enfants, pour le coup, étaient vraiment en première ligne de tout ça. Donc, oui, bien sûr que l'actualité, elle peut raviver des choses. C'est compliqué pour les enseignants de savoir ce qui se passe dans la vie des enfants, etc. Il faut être attentif, je pense, à ce que si un enfant montre des signes de souffrance particuliers dans un moment donné, c'est-à-dire un enfant qui, par exemple, ne s'intéresse plus aux choses auxquelles il s'intéressait d'habitude, n'a plus envie de jouer avec les autres, a tendance à se replier, ou au contraire montre une espèce d'émotivité débordante. Je pense que c'est vraiment important d'être attentif dans ces moments où l'actualité est tellement brûlante, et puis de proposer peut-être à ce moment-là un échange individuel avec l'enfant pour voilà, essayer de... en tout cas de comprendre un peu ce qui lui arrive, et puis ensuite de voir ce qu'on fait avec ça. Hein. Il ne s'agit pas, évidemment, pour l'enseignant de prendre en charge, hein, mais en tout cas d'identifier un petit peu pour être plus attentif et du coup s'adapter aussi à ça.
On a François qui nous pose un certain nombre de questions dans celle-ci. Est-ce qu'un travail en équipe entre CPE, enseignants, psychologues est utile, voire nécessaire pour mieux appréhender ce travail autour des émotions des élèves?
Et moi, je crois que la collaboration, elle est vraiment nécessaire, enfin, les équipes en général, et je pense que c'est une occasion. Tout ce qu'on vit actuellement est une occasion pour recréer une dynamique autour de l'équipe qui était parfois un peu perdue. On est un peu chacun parfois dans sa classe. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire avec ce qu'on est et d'aller chercher les ressources et de se dire, OK, on est en complémentarité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de mon point de vue, plus que nécessaire.
On peut penser aussi que les enseignants, ça fait un peu quand même plus de 2 ans que les choses sont compliquées pour eux. Ils en ont peut-être un petit peu assez aussi. Voilà, il peut peut-être y avoir aussi de leur part, à un moment donné, je peux plus, là, j'assure plus.
Ouais, c'est difficile. C'est difficile pour les enseignants dans les classes. Je les côtoie beaucoup. Il y a une vraie fatigue et en même temps, ils sont très présents, ils font de leur mieux. Mais là, vraiment, ça a été éprouvant sur les 2 dernières années.
Delphine, vous nous aviez dit quand on a préparé cette émission qu'il y a aussi des parents qui ne souhaitent pas qu'on parle de ces questions-là, qui trouvent que ça n'a pas sa place. Alors vous, dans vos médias, dans vos magazines pour enfants, mais aussi dans l'école, parfois, on estime qu'ils sont trop petits.
Voilà, ça c'est une vraie question et je trouve à travers mes... plusieurs décennies d'expérience professionnelle que ce sujet est monté. Plus nous sommes au centre du fracas du monde et nous entendons de manière de plus en plus vive ce qui se passe, plus certains parents souhaiteraient protéger, isoler leur enfant et peut-être ne mesurent pas que si on ne met pas des mots sur des images, comme vous le faites, Marie-Noëlle, ou vers des sons, des choses ou des choses qui se disent dans la classe, en fait, l'enfant reste avec des choses qui sont trop lourdes à porter pour eux. Donc, on essaye, nous, quand on le peut, défendre la nécessité de la confiance à avoir, en fait, envers ces fameux éducateurs que nous sommes, qu'est l'école. Et nous sommes des professionnels. Nous n'irons pas dire n'importe quoi à des enfants.
Et alors, je continue avec une question d'Aurélie. Alors, peut-être pour vous, Marie-Noëlle. Est-ce qu'on gère les émotions de la même façon avec les grands et avec les petits? C'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas vraiment un différencié entre des maternelles et des CM2. On peut imaginer que ce n'est pas la même chose.
Non, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et avec les ados, non plus. avec les tout-petits, on peut être effectivement sur... c'est important de passer beaucoup par des médiations avec les petits. Mettre des mots, nommer les choses, etc., ça reste important. Mais passer par des médiations, du dessin, du jeu, etc., ça, c'est vraiment plus adapté pour les plus jeunes. Quand effectivement, les enfants grandissent, ils sont plus à même d'aller vers une réflexion. Donc, une fois qu'on a chacun exprimé ce qu'on ressentait face à la situation, on peut aller vers des explications, de l'information, des choses qui vont permettre de contextualiser et du coup de border l'angoisse, parce que contextualiser, vraiment dire voilà, vous le disiez Delphine, une carte de géographie, où est-ce que ça se passe, quels sont les enjeux, etc., ça c'est très important. Chez les ados, c'est encore autre chose. Les ados, ils sont très... défendus par rapport à leurs émotions. C'est difficile d'exprimer ses émotions devant les autres, devant les adultes. Non, ça leur fait rien. Bien sûr, ça leur fait rien. Voilà. Alors qu'en réalité, ils sont extrêmement sensibles. Ce ne sont pas des adultes miniatures, ce sont des adultes en construction, donc avec toute la fragilité que ça suppose. Donc il faut vraiment beaucoup de doigté. On ne peut pas aller beaucoup sur le terrain de proposer d'exprimer les émotions. Ça, c'est compliqué pour eux. En revanche, aller vers des actions, des engagements. Évidemment, là aussi, beaucoup d'explications, de mise en perspective. Ils sont beaucoup plus à même de comprendre la complexité du monde, d'aller vers les enjeux géopolitiques, etc. Et puis, des formes d'engagement, d'action. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut leur correspondre beaucoup. Bien, et ça permet aussi de se souder en groupe autour d'un but commun. Et ça, dans les moments aussi perturbés que ceux que nous traversons, le collectif est vraiment très important. C'est-à-dire se souder avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs. Et puis, militer, s'engager vers un but commun, c'est vraiment très important et très porteur.
Je voulais... vous demandez, Nadège, comment, pour repartir sur cette, enfin, pour continuer sur cette question des familles, de la coéducation, comment on échange avec les familles, justement, sur ces sujets-là? Est-ce qu'on leur, vous leur donnez aussi des petits éléments? Vous leur donner un peu des idées de magazines, de choses qu'ils peuvent regarder avec leurs enfants, par exemple?
Eh bien, ça dépend des équipes. En fait, mais oui, il y a des, enfin, de la même façon, il y a des propositions qui ont été faites sur l'académie de Versailles. J'en reparle justement qui guide les parents, que ce soit pour les petits ou les grands, sur la manière vraiment les différentes étapes pour parler à un enfant, qui leur parle aussi des écrans, qui leur parle de comment accueillir justement toutes les émotions et pour les plus grands d'apprendre à nuancer. Aussi beaucoup, parce qu'on est beaucoup dans quelque chose de le méchant Poutine. Et pour les plus petits aussi, j'ai vu des choses qui étaient faites et très bien faites et qui expliquent que le parent, d'aller parler à son enfant, mais en déculpabilisant, c'est pas de sa faute s'il voit des adultes qui sont pas bien. Et je pense que c'est important de communiquer entre les familles. Et aujourd'hui, avec le protocole sanitaire qui est plus souple, de pouvoir se parler à la sortie de l'école, parce qu'il y a des parents qui sont souvent plus angoissés que leurs enfants et qui viennent poser questions. Et souvent, en fait, ça se fait de manière informelle. Donc, où les parents viennent et où les enseignants répondent, prennent le temps de les accompagner.
Il y a des enfants, peut-être même, qui, ça peut être surprenant, mais qui n'en ont pas du tout entendu parler, finalement, non, dans les classes.
Tout est possible. Tout est possible. Alors, aujourd'hui, moins, mais en tout cas, qui donnent pas qui n'ont pas la même vision que les autres. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes images, parce que donc c'est quelque chose d'assez lointain comme histoire qu'on leur raconte. Donc oui, il y a quelques enfants qui peuvent être encore dans cette dimension-là.
Alors je vous propose, parce qu'on arrive sur la fin de cette émission, un temps d'inspiration. Donc on vous a demandé à chacune une référence qui peut être vraiment de tous ordres que vous aimeriez partager avec nous. Je commence avec vous, Delphine.
Oui, je pense que
un livre, il faut que je vous retrouve la référence, mais peut-être je vais passer la parole à quelqu'un pour...
Marie-Noël, voilà. Je vous laisse le temps de la retrouver.
Oui, moi j'avais envie de partager un film en fait qui n'est pas du tout nouveau, hein, qui est sorti en 2014, hein, qui s'appelle Les Héritiers. Un film d'une réalisatrice qui s'appelle Marie Castille Mention-Char. Ça se passe dans un lycée à Créteil. Le professeur d'histoire-géographie est incarné par Ariane Ascarine. C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, où en fait ce professeur se retrouve face à une classe extrêmement bruyante, difficile, pas intéressée aux apprentissages, avec beaucoup de religions différentes à l'intérieur de la classe, des tensions, tous les aspects de multiculturalisme compliqués. Et elle décide de leur proposer, à un moment donné, de participer au concours de la résistance et de la déportation. Et donc, bon, au début, ça prend moyennement, hein. Et puis, petit à petit, le groupe se fédère autour de ce projet. Je ne vais pas spoiler la fin, parce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement comment ce professeur parvient finalement à partir de multiples individualités, à forger un projet de groupe. Et la place des émotions là-dedans, c'est-à-dire qu'elle n'hésite jamais. Alors, c'est un film, hein, bien sûr, je ne sais pas comment ça s'est passé dans la réalité, mais en tout cas, ce qui est montré, c'est qu'elle n'hésite jamais à dire ses émotions, à les nommer, à dire ce que ça lui fait, les réflexions d'un tel ou du groupe en général. Et du coup, les élèves se saisissent de ça au fur et à mesure, apprennent eux aussi à nommer les leurs. Et il y a vraiment quelque chose de très chouette qui se passe dans ce mouvement-là.
Merci. Nadège ?
Alors, moi, j'avais pensé à un pédopsychiatre qui est Philippe Jamet. Voilà, une citation de lui. Et finalement, ce matin, j'étais dans ma salle de bain et je vois je suis désolée, c'est une aspiration du jour un peu spontanée. Et je vois un magnifique lever de soleil. Et je me dis, mais finalement, aujourd'hui, on focalise notre attention sur des choses qui sont difficiles, qui vont pas bien. Et moi, mon inspiration, c'est finalement, inspirons-nous de ce qui nous entoure, de la beauté du monde. De cette nature qui nous environne, de ces senteurs qui a aujourd'hui... Quelque part, moi, mon inspiration, elle est là aujourd'hui, et d'amener les enfants à aller aussi vers ce qu'on ne voit plus. Voilà, changer notre regard. Donc, j'ai changé complètement mon inspiration du jour.
Elle est très bien aussi. Merci.
Voilà, j'ai retrouvé mon inspiration parce que je ne voulais pas dire de bêtises. Il s'agit d'un livre qui parle de la guerre. Et donc, j'ai choisi « La guerre qui a changé Rondeau », qui était sorti en 2015 chez Rue du Monde, qui est un livre ukrainien, et qui avait été écrit dans le contexte de la guerre du Donbass, où il y avait déjà un conflit territorial entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est un livre que je trouve très touchant, qui avait été publié dans beaucoup de langues, qui avait déjà eu une vie internationale et que l'éditeur Rue du Monde a ressorti en toute urgence. Et Rondeau, c'est une ville de grands musiciens. Et il y a une grande serre musicale où trois amis vivent en pleine lumière au soleil. Et les tanks, les hélicoptères et les bombes arrivent. Et petit à petit, l'album s'assombrit, devient de plus en plus noir. Et on n'entend plus rien que le bruit des armes. Et petit à petit, les pages deviennent noires. Et finalement, ces trois amis ensemble cherchent une idée pour s'en sortir et ils choisissent d'éclairer la guerre pour pouvoir en sortir. Et petit à petit, la lumière, en fait, surgit à la fin du livre. C'est un livre qui est plein d'espoir. Et j'étais la semaine dernière à Bologne, à la Foire internationale du livre de Bologne, et les gens se photographiaient avec ce livre. C'était extrêmement touchant. Et c'est un bel album que je vous recommande.
Et une métaphore finalement de ce qui peut se passer dans les classes, hein, d'aller de l'ombre vers la lumière. Régis ?
Je trouve qu'on finit sur deux belles images qui se rejoignent avec les deux derniers coups de cœur, inspiration sur la lumière, sur le carpe diem quelque part, de voir de la lumière dans tout ça, qui conclut assez joliment cette émission, hein, puisqu'on a commencé par dire qu'il fallait prendre soin d'accueillir les émotions, ses propres émotions et évidemment celles des élèves, pour en faire quelque chose. On a parlé d'art notamment, de transformer ses émotions en art, et du travail en équipe, en coéducation avec les parents, avec ses collègues. Donc, quelle plus belle image que de finir sur cette note ensoleillée en ces temps un petit peu sombres. En tout cas, un très grand merci Marie-Noëlle Clément, Nadège Le Tessier et Delphine Solière d'avoir participé à cet épisode Parlons Pratique.
Comment accueillir les émotions des élèves face aux sujets d'actualité? Un épisode Parlons Pratique préparé et animé par Régis Forgione
et Hélène Audard.
Enregistrement et moyens techniques,
Hervé Thury et Laurent Gaillard.
Coordination de production,
Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance.
Directrice de publication,
Marie-Caroline Missire.
Merci beaucoup au Clémy qui nous a accueillis dans ses locaux aujourd'hui.
Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
Une production Réseau Canopée 2022.
Extraclasse.